Mille cailloux, par Hélène.
Des histoires de cailloux et des êtres qui vivent dessus.
Ici, il y a de tout, sauf le pognon.
Des histoires que l'on ramasse au bord des chemins et que l'on sème comme des cailloux.
Pendant que les fourmis travaillent et que les nuages passent. Mille cailloux.
La lune, c'est fait pour rêver. Le soleil, c'est pour vivre.
Bonjour à toutes et à tous. Ce mois-ci, Mille Cailloux vous emmène le long des chemins, avec en tête une question. Quelle balade aimeriez-vous faire? Ou plus précisément, quels sont les lieux de la région dans lesquels vous aimez particulièrement vous promener? Et quels endroits faites-vous découvrir à vos amis, à vos proches ou connaissances qui vous rendent visite dans la région? Les vieilles pierres, Rocamadour, Martel, Turenne ou les sites naturels? La vallée de la Dordogne, la cascade d'Autoire, l'œil de l'Adou, les grottes, les falaises, les vallées encaissées, les résurgences du Causse, d'autres encore, très certainement. Tout le monde chérit un coin en particulier, et peut, bien sûr, le garder secret, rien que pour soi, ou en parler, et inviter les autres à faire de belles balades. Nous avons posé cette question simple aux membres du lieu commun, association culturelle qui organise des événements tout au long de l'année. Chaque mercredi, les membres se réunissent autour d'un repas dans une ambiance chaleureuse. C'est à ce moment que j'ai poussé la porte du QG de l'association, sur la place de l'église, à Saint-Céré, avec cette seule question. Quel coin vous ravit au point d'y revenir et que vous voudriez faire découvrir? Je vous propose d'entendre les réponses d'Isabelle, Patrick, Stéphane, Joël, Patrice et Michel.
S'il n'y a pas de vent, j'aime bien aller faire le tour des tours de Saint-Laurent. Parce que de là, on voit tout Saint-Céré, on révise sa géographie, les rues, on voit le lycée, on voit tous ces petits quartiers, on devine les canaux sous les petites rues qui portent un nom pompeux de boulevard. S'il fait très chaud, très soleil en été, j'aime bien par contre monter jusqu'à la Notre-Dame de Verdal. Par le petit sentier, remonter le ruisseau et de là découvrir cet endroit charmant, perdu. Je peux le situer, oui, en effet, il faut sortir de Saint-Céré en prenant la direction de la Touille, traverser, commencer à monter comme si on allait à Gorce et puis tout de suite prendre à gauche, se garer au premier parking, sauf si on est à mobilité réduite. Et après, on prend le goûter, on peut prendre un bâton, un petit panier, s'il y a des mûres ou des fraises des bois, ça dépend de la saison. Et on se laisse porter au fil des pas qui montent tout doucement. Et c'est charmant.
Finalement, tu nous décris le cadre alors que cette chapelle, elle est indiquée pour son patrimoine, en fait.
Oui, mais la chapelle, on ne peut pas toujours y entrer. Elle est fermée parfois, souvent même. Alors qu'autour, on peut en faire le tour et voir toute cette végétation sur les coteaux. On peut s'amuser, goûter, se poser sur le parvis. Et on peut s'imaginer ce que ça donnait quand il y avait les processions ou toutes les cérémonies pour le 15 août, par exemple.
Donc moi, c'est un village qui est situé le plus au nord du Lot. Le seul village du Lot qui est répertorié sur la région d'habitude corrézienne ou cantalienne qui s'appelle la Xaintrie, c'est le petit village de Caüs. J'ai un attachement fort à ce village parce que c'est le village où vivait mon arrière-grand-mère. Et c'est sur ces collines que j'aime me promener pour la bonne raison qu'on découvre toute la vallée de la Serre, qu'on aperçoit également le château de Castelnau, qu'on voit au loin la vallée de la Dordogne qui se dessine. Et on y sent à la fois cette présence forte sur ce coin de territoire du nord du Lot, au niveau géologique de la, des schistes et de la pierre qui est de là-haut, qu'on appelle la, la serpentine, qui est une pierre bleue. Et on sent, quand ça descend vers, justement vers la serre, que ça se glisse sous les calcaires de la colline de Glane. Donc c'est toute cette approche que j'aime bien. Et c'est également cette végétation avec ses châtaigniers, ses noisetiers et les vestiges de quelques vignes encore. Ça, c'est, pour moi, c'est grandiose. Et voir ce paysage-là, de regarder plus vers l'est, d'apercevoir les collines de Teissieux, d'Estal, de deviner la serre à l'aval de Serre. Là, quand, c'est un endroit, que, à la fois sauvage et d'une... Je sais pas, moi je suis rempli de profondeur d'âme quand je me balade dans les hameaux de Cahus. Alors il y en a un bien sûr que j'affectionne particulièrement parce que c'est celui d'où est originaire une partie de ma famille. C'est le hameau de Miquial, mais que ce soit au Cirézol, à Longueiroux, moi j'aime bien. Alors je cherche pas particulièrement les chemins. On marche sur la petite route où il passe peu de voitures. Et puis j'ai encore la chance de connaître quelques vieux paysans. Donc c'est un charme fou, quoi. C'est pour moi ça, voilà.
Alors Cahus, c'est pas au bord de la serre, c'est sur les coteaux.
C'est sur les coteaux, ouais, c'est en hauteur, ouais. Et alors bon, moi je suis né au port de Gagnac et j'avais le souvenir, là on est au cœur de l'hiver, gamin, De voir les collines, justement, on aperçoit Cahus et on voit les collines enneigées. Et nous, en bas dans la vallée, on n'avait pas de neige. Donc le grand truc, c'était vite de trouver un oncle ou quelqu'un de la famille qui puisse nous amener faire de la luge à Cahus. C'était notre grand plaisir. Puis on s'arrêtait, moi j'avais des copains dans un hameau qui s'appelle le Nougueirol. On s'arrêtait au Nougueirol, on allait chercher les copains, ils venaient avec nous. Or, bien souvent, on n'avait pas de luge, on glissait sur des sacs poubelles ou des couvercles de poubelles, justement, en plastique, mais c'était fabuleux, quoi. On n'avait pas besoin d'aller au sport d'hiver, c'était notre trip à nous. On connaissait les champs bien pentus, ou les... Voilà, c'était...
Alors, l'hiver sur les collines de Cahus et l'été dans la vallée à Gagnac, se baigner dans la serre.
Voilà, se baigner dans la serre, aller patauger même. Y a un endroit qui s'appelle le Pont d'Orgue en montant la Val de Serre. C'était fabuleux, voilà.
Est-ce que les anciens racontent des anecdotes sur les changements qui sont intervenus dans ce coin, dans ce secteur du Lot?
Les anciens, moi, je me souviens surtout de ma grand-mère. Alors, tous les endroits, c'est ce que j'essaye parfois de rechercher, tous les endroits avaient un nom. Bon, la vigne, il n'y avait pas de nom en patois, mais c'était la vigne. On savait qu'elle nous laissait un petit mot sur la porte. Je suis à la vigne. Les clés sont cachées à la grange, là où vous savez. Voilà, ça, c'était le... Et après, bon, on allait au Châtaignol, on allait au Cirézol, tous les lieux avaient des noms. Et je trouve que ça a une signification, c'est merveilleux, quoi, quand on sait que quand on va dans un pré, il n'est pas anonyme. Ça, c'est quelque chose de... Pour moi, c'est quelque chose... Il y a une vraie poésie qui se dégage. Ouais, je suis plein d'émotions, j'en pleure.
Oui, non, mais c'est vrai, vous avez raison. Les noms de lieux disent quelque chose des hommes qui ont vécu et de l'histoire, en fait.
De l'histoire, voilà. Ça, c'est merveilleux, quoi.
Mais ce que je trouve beau dans ce que vous dites, c'est que vous parlez de la beauté de ces paysages, alors que quand on évoque la vallée de la Serre, il y a deux possibilités. Soit on évoque l'aspect sauvage et naturel de ce lieu, soit on évoque l'industrie et les usines qui se sont installées au bord de la Serre.
Ouais, mais ça c'est le... un petit peu le à la fois le drame et la fierté, parce que c'est le poumon économique. Et c'est vrai que quand on est à Cahus et qu'on regarde vers la vallée et qu'on voit les usines Andros, c'est pas un des plus beaux paysages. On doit le reconnaître, quoi. Ça dénature la nature. Mais bon, en même temps, on se dit, c'est porteur pour la vie locale. Et sans ça, ça serait un lieu désert ou voilà. Et l'autre beauté, moi je trouve, alors c'est ce qu'il y a de formidable, c'est cette, je sais pas comment l'appeler, cette confluence, parce qu'on touche, on est vraiment à la jonction de deux territoires, du sud de la Corrèze et du nord du Lot, et sur des communes, alors il y a des communes voisines, moi je pense surtout une commune de Corrèze qui touche à Cahus. C'est Altillac, mais à Cahus, ça se ressent aussi. Sur la hauteur, on a vraiment les maisons corréziennes et presque cantaliennes de la Xaintrie. Alors qu'on est dans la vallée, ça y est, c'est le Quercy tout de suite. Moi, j'ai l'émotion, quoi. Ça me touche tellement, tellement fort. Et alors, autre chose aussi, on le retrouve dans les granges. Les montées de grange à Cahus, c'est des montées auvergnates. Alors qu'après, un tout petit peu plus bas, on retrouve des granges type Limousine. Et en bas, on trouve des granges quercinoises en l'espace de 5-6 kilomètres.
Alors, une précision, quand vous dites des montées de granges, c'est-à-dire l'architecture, c'est...
C'est l'architecture, c'était le fait... qui est on utilise soit le relief naturel ou alors on fait un tertre en terre pour que le char de foin monte directement. Voilà, c'est ça la montée de grange.
Oui.
Voilà.
Maintenant que vous le décrivez, effectivement, on peut voir ce chemin qui monte à hauteur du premier étage.
Voilà, à la hauteur du premier étage et en dessous, donc l'étable, quoi. Voilà, c'est quelque chose. Ou alors, on trouve carrément la grange de plein pied, qui ne servait que de grange. Et c'était un peu la forme d'une longère, où l'étable, l'écurie, était en continuité du bâtiment dans lequel on mettait le foin. C'est pas la même architecture. Et ça, moi, j'y suis sensible, parce que quand on voit des linteaux de grange avec des dates... 1700 et quelques ou 1800, bon, mais ça a traversé le temps, quoi. C'est fabuleux. Alors le grand dommage, c'est quand ça sert plus et que ça s'effondre, quoi. Mais je dis qu'il faut faire des efforts pour restaurer des granges et surtout pas bâtir des pavillons phénix, quoi. Ça, c'est ma fibre à moi, quoi.
Merci beaucoup, Patrick, pour ces conseils de promenade. Alors, on l'aura compris, autant dans la nature du côté de Cahus que dans les petits hameaux des coteaux.
Tous les hameaux de la commune de Cahus, absolument tous, ils sont tous un petit peu différents, mais pleins de charme. Et c'est bon, bien sûr qu'on peut prendre il y a des chemins de randonnée, mais même en marchant sur les petites routes qui relient justement ces hameaux vers le village principal de Cahus, faire le tour de l'église, descendre, il y a un petit lac, voilà.
Une belle balade.
Des belles balades. Des. Pluriel.
Moi, j'adore les vallées de Louis et de l'Alzou, parce que c'est près de Rocamadour, et c'est d'une beauté, il y a des résurgences, alors je ne sais plus si c'est Louis ou l'Alzou, on commence par là, il y a une énorme résurgence d'un vert émeraude, de toute beauté,
Et puis là, après, on marche dans des cailloux, on monte, on descend. Une résurgence, c'est quand l'eau sort de terre. Mais il y a aussi des... Comment ils appelaient ça, des zigs où l'eau rentre dans la terre. Et donc, c'est des vallées sèches, en fait. On voit que l'eau est passée à travers les pierres. Donc là, sur le Causse, l'eau apparaît, disparaît. C'est très, très beau. Il y a aussi des sources. Donc, on peut pique-niquer. Il y a des salamandres. C'est assez sauvage. Et j'aime beaucoup. Il y a un éleveur de truites là-bas, sur l'Alzou, je crois. Elles sont excellentes. Elles sont vraiment très, 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 très bonnes. Après, à Rocamadour, on peut aller acheter du fromage. Il y a un très bon... Très bon cabécou.
Ah, vous faites des balades gourmandes, du coup.
Ah bah oui, oui, oui. Sinon, c'est pas la peine d'être dans le Lot, je dirais. Il y a tellement de bons produits locaux, des noix, tout est bon, voilà, tout ce qu'on peut manger. Ici, il y a beaucoup de bons producteurs locaux. Et oui, moi-même, je fais un potager, donc je peux dire que je ne mets jamais les pieds chez Leclerc.
Et est-ce que vous y allez souvent dans l'année, que ce soit dans la vallée de l'Alzou ou la vallée de Louis?
Mais dès que je peux emmener des personnes qui sont capables de marcher quand même, et qui viennent, parce que sinon je me balade autour de chez moi, dans les bois, j'adore monter, descendre, il y a des girolles à ramasser, des trompettes, des pieds de mouton... Tout plein de bonnes choses à récolter. Et oui, je peux dire, je fais des kilomètres dans les bois, monter, descendre, parce que c'est agréable. Et puis après, on se sent très... J'adore être dehors, hiver comme été. Et je trouve que la marche... Bon, quand il pleut, j'aime un peu moins. Mais quand on a marché quelques heures, soit pour ramasser des champignons, soit pour se promener, pour aller nager l'été, j'adore aller nager au Tolerme, à Torillac... On a la tête nettoyée, ça vaut une méditation, ou je ne sais pas, si on a des idées noires avant, et ben on n'a plus les idées noires, on est libéré, on est propre dans sa tête, je veux dire, ça fait du bien.
Alors je suppose que vous habitez dans le secteur de Saint-Céré du coup?
Oui, sur la commune de Saint-Paul-de-Verne, donc là il y a beaucoup de bois.
Mais il y a aussi de belles marches à faire dans ce coin.
Oui, alors là, c'est très joli. J'aime bien, moi, suivre, par exemple, même la nuit, quand il y a la pleine lune. On peut se promener comme en plein jour, pratiquement, si on suit les lignes de crête, si on ne va pas dans les vallées trop profondes. Et donc, après, on a la chance aussi de croiser des blaireaux, des renards, des chevreuils, parfois très, très proches de nous, des lièvres, des hérissons... Bon, sans parler de tous les oiseaux. Donc ça, c'est très agréable.
Alors, j'imagine que pour observer tous ces animaux, ça implique aussi de faire des balades en solitaire et en étant assez silencieuse. Du coup, je vous imagine comme ça, dans les bois.
Oui, je marche... oui, c'est sûr, si on est 15 et qu'on discute, on n'a aucune chance de voir ces animaux. Mais si on marche, finalement, ils ne sont pas si farouches que ça. Ils sont même très curieux de nous. Et si on arrive à s'immobiliser dès qu'on les perçoit, c'est eux qui s'approchent de nous. Moi, j'ai été approchée comme ça par des biches, par des faons, très très proches. Ils nous regardent, ils nous dévisagent. C'est très impressionnant.
Alors moi, j'aime beaucoup aller me balader au-dessus. Moi, j'habite à La Touille, donc j'aime beaucoup aller me balader un peu plus haut, un peu plus dans le nord, dans le Ségala, à un endroit magnifique qui est le lac du Tolerme, où on peut se balader. Il y a une grande balade à faire autour à toute saison. Et c'est aussi bien au printemps qu'à l'été, qu'à l'automne, qu'à l'hiver, avec pas mal d'oiseaux qui migrent l'hiver, avec beaucoup de touristes qui migrent l'été. Et voilà, il y a quand même 25 à 30 000 personnes qui viennent se balader l'été, qui viennent profiter de se baigner, de faire du canoë, de faire du pédalo, etc. Et voilà, donc c'est agréable en toute saison.
Qu'est-ce que vous trouvez comme compensation au froid en hiver? Parce que quand même, c'est rigoureux le climat autour du Tolerme pendant l'hiver. Donc qu'est-ce qui vous fait... Pourquoi vous aimez y aller en toute saison, même quand il fait très froid?
Ah, parce que c'est très beau, parce que il y a des fois du gel et on peut aller carrément, je vais pas dire aller glisser dessus, mais des fois si avec les petits enfants, aller faire trois pas dans le, sur la glace, c'est rigolo et puis c'est toujours magnifique, quelle que soit la saison, c'est toujours très beau, l'air est vif, l'air est pur, on y respire bien, le lac est quand même ensoleillé, il y a une partie qui est plus à l'ombre, mais si on n'y va pas trop tard, on est bien toujours au soleil. En été, il y a de très beaux aussi couchers de soleil, donc se baigner, pique-niquer avec le coucher de soleil, c'est très beau. À l'automne, on a les arbres arrondis qui se reflètent sur l'eau, c'est vraiment magnifique. Et en plus, c'est un endroit qui est très riche au niveau biodiversité, avec quand c'est pas coupé trop, parce qu'ils ont la manie quand même de couper souvent beaucoup trop les herbes, alors qu'il y a plein de petites fleurs, des libellules, plein de papillons, des choses comme ça. Ils ont la mauvaise idée des fois de couper un petit peu trop, de trop nettoyer les abords du lac, voilà. Mais les promeneurs aiment beaucoup être là-bas.
Parfois, c'est le problème des sites naturels où il y a quand même une intervention humaine importante, hein.
Et oui, c'est ça. Il faut faire propre, il faut faire beau, il faut faire propre. Donc voilà, on fait ça. Et c'est quand même un lieu qui est un espace qui risque d'être... il faut en profiter maintenant parce que ça risque fort d'être... comment dire, quel est le mot que je vais utiliser ? Utilisé par... il y a un groupe, Sandaya, qui veut faire une hôtellerie de plein air pour tourisme de luxe. Et donc utiliser des terrains du privé qui sont au-dessus, donc voilà, mais également utiliser une partie de la plage, une partie, pas de la plage, mais une partie de l'espace de jeu des enfants, où ils veulent construire une piscine avec toboggan, etc., piscine couverte pour leurs clients, puisque leurs clients, ils aiment bien les piscines et compagnie. Et donc là, c'est l'espace public qui serait envahi, qui serait utilisé par un groupe de financiers privés, Sandaya, pour faire du bénéfice, quoi, pour y faire venir. Donc bon, le public pourrait logiquement y aller quand il y aura de la place, quand les gens de leur centre à eux ne seront pas là, les autres pourront y aller, oui, en payant pour certaines activités. Donc l'espace qui est actuellement naturel, eh bien, risque fort d'être mis pas en péril, mais d'être un petit peu réduit.
Vous craignez du coup pour la nature de ce lieu même, parce que vous nous parlez de construction de toboggans, de piscines, au milieu d'un site naturel, c'est vrai que ça risque de dénoter un petit peu, je le vois dans vos yeux là quand on parle.
Oui, ça va dénaturer beaucoup si c'est fait. Après maintenant ils font ce qu'ils veulent, puisqu'ils peuvent être, ça va être construit en partie sur du terrain privé qui est pris sur le nord du lac. Donc là, ma foi, ils font ce qu'ils veulent sur du privé, mais ce qui est quand même dommage, c'est que il y a des espaces humides, des zones humides, que même s'ils disent qu'ils ne toucheront pas aux zones humides, à partir du moment où il y a construction de plein de chalets, plein de bungalows qui vont être posés, automatiquement il va y avoir un grand problème de biodiversité, de terres bougées, de routes faites, etc. Donc là, c'est la planète à l'époque où on en est, alors que c'est un endroit qui est encore très protégé, c'est un endroit là qui va être bouleversé, d'une manière ou d'une autre. Ça va être bouleversé, même s'ils disent qu'ils plantent des arbres, il faut le temps que les arbres y poussent, dans tous les cas. Et voilà, donc c'est des gros problèmes aussi, à mon avis, qui vont être climatiques. Ça ne va pas arranger les problèmes climatiques.
Alors, à l'heure actuelle, le camping n'est pas encore construit, donc vous avez encore un peu du temps pour aller vous balader sur les chemins autour du lac.
Oui, c'est ce qu'on fait. Et je ne suis pas la seule. Quand on va là-bas les week-ends, les dimanches, c'est plein, plein. Il y a plein de gens on voit plein de gens qui se baladent autour. Les enfants y vont avec les vélos, font le tour autour du lac, etc., etc. Mais c'est vrai qu'on pourra toujours faire ce tour. Ça, ce n'est pas le souci. Le souci majeur, il est qu'est-ce que ça va devenir que cet espace qui est encore complet. Il ferait bien mieux d'en faire un sanctuaire ou en faire une réserve patrimoniale plutôt que d'en faire quelque chose. Je comprends que les gens de la ville aient envie de venir profiter tout comme nous de cet espace enchanteur, mais c'est encore un espace naturel et c'est une richesse patrimoniale qui risque fort d'être abîmée, quoi, d'être déduite. Voilà, donc une association, Association Tolerm Nature, qui s'est constituée de manière à, nous, ce qu'on veut, c'est défendre le lac, la biodiversité autour du lac, et que le site reste en bon état, quoi, qu'on puisse toujours, que les oiseaux puissent continuer à y venir, que les animaux, les plantes, qu'il n'y ait pas trop de destruction globale, quoi.
Faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert à. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent nous portera. Caresser la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours. Frapper à ta porte l'infinité de destin en imposant, et qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera, pendant que la marée monte et que chacun fait ses comptes, j'emmène au creux de mon nom des poussières.
Eh bien, en ce moment, parce que ça peut varier suivant les périodes, j'ai envie de faire découvrir le moulin du Sceau. Parce que pour moi, cette promenade, cette boucle au moulin du Sceau, c'est un résumé, un petit résumé du Lot. Il y a un peu de tout, il y a du patrimoine, il y a de la géologie, il y a de la biodiversité, il y a des beaux paysages lotois. Il y a tout ce qu'il faut pour avoir une idée assez complète de ce que contient, de ce que on peut découvrir dans notre beau département.
Il y a deux solutions pour voir le moulin du Sceau. On peut le voir depuis le Causse ou depuis le fond de la vallée de l'Alzou, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ça.
Moi, je fais la balade classique. Je plonge vers le Moulin du Sceau, dans cette forêt. On découvre déjà la géologie. On a un peu une idée de ce qu'ont pu être les millions d'années précédentes quand on voit ce calcaire qui a été découpé petit à petit par la rivière. On découvre la main de l'homme aussi à travers ce moulin, qui est assez impressionnant, qui a dû être très actif pendant de nombreuses années. Et petit clin d'œil à l'actualité, au moment où on parle d'énergie renouvelable, de changement climatique, etc., peut-être qu'il faudrait se retourner vers ce genre d'édifice, ce genre de moulin, de petites structures pour produire une énergie locale et pour relocaliser beaucoup de choses. Voilà. Je referme la parenthèse.
En même temps, voilà, je retrouve là aussi ta sensibilité, même presque sociale aussi. Mais du coup, il y a des moulins tout au long de la vallée de l'Alzou. Ça devait être une sacrée industrie à l'époque.
Oui, on essaye d'imaginer toute l'activité qu'il devait y avoir dans cette vallée. Les gens qui descendaient pour faire leur farine, tout le passage qu'il y avait jusqu'à Rocamadour d'ailleurs. Si on veut poursuivre cette vallée jusqu'à Rocamadour, on arrive sous le site de Rocamadour. Et c'est assez impressionnant. D'un seul coup, là, on sort de la forêt et on découvre cette cité de Rocamadour. Et c'est vraiment une impression, je trouve, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une impression assez merveilleuse.
Et tu te dis pas que les moulins, c'était un peu les usines de l'époque ? Des lieux de pouvoir, de richesse ?
Oui, des lieux, je le vois plutôt, c'est peut-être ma sensibilité, mais je le vois plutôt comme des lieux de convivialité, des lieux d'échange entre les gens, des lieux de troc, voilà, où tout le savoir-faire paysan, le savoir-faire des artisans, tout ça se côtoyait, s'échangeait dans la joie et la bonne humeur. Mais il devait certainement y avoir des tensions également, hein. Je ne suis pas non plus naïf.
Oui, parce que je crois qu'il fallait payer quand même assez cher pour aller faire moudre son grain.
J'ai pas les tarifs en tête, mais mais certainement, il doit y avoir des rapports d'argent, des rapports de pouvoir, comme d'habitude. Il doit y avoir des choses un peu moins jolies que ce qu'on imagine actuellement en 2021.
Et est-ce que ce moulin du Sceau, tu l'aimes par tous les temps, en toute saison ?
Oui, justement, parce qu'on peut voir en été, on a une vision différente avec parfois l'Alzou qui est presque à sec. Hein. On descend quand même dans un petit havre de fraîcheur. On a une nature, une biodiversité assez étonnante quand on sait la chercher, la regarder. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on remonte sur le coast, là, on a une vision complètement différente et des paysages. On découvre ces vallées creusées dans la roche, là, cette vallée de l'Alzou qui est creusée dans la roche depuis des millénaires. Et puis, une végétation complètement différente. Alors l'été, on est écrasé de chaleur, évidemment. L'hiver, c'est complètement différent. On a cette belle lumière d'hiver, là, quand on découvre, on arrive en haut, cette vallée de l'Alzou, là, c'est magnifique.
J'adore me balader sur les bords de la Dordogne, dans des endroits qui sont encore sauvages au bord. Et c'est tout près de Biars, c'est vers Tézel. Et les bords de Dordogne sont restés sauvages. Et là, on peut y observer des tas d'oiseaux. C'est magnifique, surtout au printemps, puisqu'il y a notamment le chant du rossignol, qui est un chant fabuleux.
Est-ce que c'est un endroit qui est connu des habitants de la région ?
Des locaux, puisqu'il y en a qui font du VTT, qui longent. Il y a des petits sentiers très discrets au milieu de la ripisylve. C'est toute la végétation de bordure des cours d'eau. Et il y a des pêcheurs, bien sûr. Il y a des pêcheurs à la mouche, beaucoup de pêcheurs de truites. Il y a de la belle truite. On en a vu, on a pu même en photographier qu'un pêcheur avait pris. Et il l'a relâché. Et ça, c'est super.
Et vous, quand vous y allez, c'est en observateur, en pêcheur, en randonneur, en vététiste ?
En naturaliste. pas confondre avec naturiste.
Donc vous y allez habillé sur les bords de Dordogne, vêtu de vos beaux vêtements, et qu'est-ce que vous faites ?
Des fois simplement en maillot de bain, hein, parce qu'on s'y baigne l'été, eh oui.
Alors l'activité de naturaliste, ça consiste en quoi ? Vous avez un petit carnet avec vous, un appareil photo ?
Appareil photo, jumelles, et puis la lunette d'observation pour observer ce qui est loin. Et donc, on arrive à voir vraiment de très beaux oiseaux, notamment en période de migration. La chance de voir le balbuzard fluviatil. Très bel oiseau qui descend donc en fin d'été, fin d'automne, pour regagner les rives de l'Afrique. Et il revient après, au printemps, pour nidifier, mais bien plus loin. Mais il passe chaque fois sur la Dordogne, on l'observe tous les ans.
Est-ce que c'est un oiseau pêcheur ?
Eh bien oui, le balbuzard pêcheur, on peut l'appeler aussi. Et il se nourrit exclusivement de poissons. Et d'ailleurs, cette année, ce fut exceptionnel. Il y avait un balbuzard qui était posé sur un pont en train de manger un poisson et qui n'était pas peureux puisque des gens ont pu faire des photos avec leur smartphone.
C'est comme ça qu'on dit, oui. Et donc, vous êtes un peu spécialiste des oiseaux ?
Mais c'est une passion, c'est une passion. On est plusieurs au lieu commun à faire de l'ornithologie et on se plaît à parcourir la nature, à la recherche des oiseaux. Et par exemple, à Saint-Céré, tous les ans, on recherche le Ticodrome échelette, l'oiseau papillon. Et on l'a observé mercredi dernier sur les tours de Saint-Laurent.
Est-ce que vous pouvez nous décrire cet oiseau et pourquoi vous aviez envie de l'observer ?
Eh bien, c'est un oiseau qui vient des hautes montagnes. Il est à 2-3 000 mètres d'altitude. Puis comme il fait quand même très froid là-haut, eh bien, en hiver, il descend en villégiature sur Saint-Céré. Et donc cet oiseau, c'est un oiseau qui a la taille, on va dire, d'une grive. Il est gris et noir et il est inféodé aux parois rocheuses. Et donc, quand il descend de ces montagnes, il faut qu'il retrouve cet environnement. Et il le trouve où ? Sur les monuments, comme les églises, les grands bâtiments, les barrages, les grands barrages, donc on le recherche, et les tours de Saint-Laurent.
Est-ce que vous trouvez que le département du Lot, c'est un endroit privilégié pour observer les oiseaux ?
Alors, le département du Lot, notamment les bords de cours d'eau, sont des endroits où on peut observer beaucoup d'oiseaux. Mais malheureusement, comme tout le monde le sait, il y a eu une baisse très très importante des populations d'oiseaux, d'insectes. Et c'est vrai qu'on a plus de difficultés, notamment en hiver, à observer des oiseaux. Récemment, on est allé au lac du Tolerme et comme il broie toutes les bordures, eh bien, on n'a pas vu grand-chose. Il faudrait qu'ils arrêtent de broyer les bordures du lac du Tolerme et qu'ils le laissent tranquille, ce lac. C'est un havre de paix.
Clin d'œil à Joël qui m'a dit la même chose il y a quelques minutes. Et sinon, on parle des populations d'oiseaux qui diminuent. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a certaines espèces d'oiseaux que l'on observe du coup en plus grand nombre ou pas forcément ?
Alors, il y a des espèces d'oiseaux qui ont, dans la population, augmenté et qui étaient plutôt rares, mais il y a de ça 10-20 ans. C'est le pic noir qu'on observait rarement. Maintenant, on arrive même à l'entendre. Dans les bois, si vous entendez... C'est le pic noir qui passe.
Alors, le pivert est bien plus célèbre.
Mais le pivert, lui, il n'a pas été absent, si vous voulez. Alors que le pic noir, par moment, à une époque, il était absent. Maintenant, il est revenu. Et il y a certains rapaces, depuis qu'ils ont été protégés, donc ça fait depuis 1976, les rapaces, depuis qu'ils ont été protégés, notamment des chasseurs, parce qu'il y a eu un bilan fait par la LPO cette année, et il y a eu énormément de rapaces tués par les chasseurs. Pourquoi ? Parce que les effectifs de surveillance des gardes de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, sont en baisse. On nous parle beaucoup de biodiversité, de protéger la biodiversité, mais sur le terrain... Eh bien, les gouvernements, ils ne font pas augmenter les effectifs de ceux qui sont en charge de protéger la biodiversité.
Je vais terminer par une question plus personnelle. Du coup, est-ce que vous êtes membre de la LPO ?
Ah ben, bien sûr. Bien sûr, depuis longtemps. Oh là là. C'est... En adhérant à ces associations de protection de l'environnement, eh bien, on les renforce dans leur rôle, dans leur mission, qui sont d'améliorer la biodiversité. Et il y a aussi une association qui est moins connue, c'est l'ASPA, l'association qui protège les animaux sauvages. Et eux, ils sont vraiment très, très pertinents dans la lutte contre toutes les exactions envers la nature, notamment celles faites par les chasseurs.
Alors, en vous entendant, je me dis, voilà, ça, si on est novice, ça peut quand même nous donner vraiment envie d'observer les oiseaux. Quel conseil vous nous donneriez pour observer les oiseaux autour de chez nous ? Je ne sais pas, le moment de la journée ou la saison ou...
Alors...
Un novice.
Mais déjà, s'il a un petit peu de terrain tout près de chez lui, ou même autour de la maison, en hiver... Il peut installer une mangeoire. Alors par contre, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Uniquement des graines de tournesol. Et aussi penser à mettre à boire. C'est vrai, tout le monde n'y pense pas. Surtout quand il gèle. Et donc quand il gèle, il faut renouveler l'eau. Il ne faut pas mettre de sel dedans. Hein. Attention, ou mettre de l'eau bouillante. Mais déjà, quand les oiseaux viennent à la mangeoire, avec une paire de jumelles quand même, c'est bien plus pratique. Et un livre d'identification, eh bien, on apprend progressivement à reconnaître les oiseaux. Et la deuxième saison intéressante, eh bien, c'est en période de chant. En période de chant, eh bien, il faut...
Au printemps.
Voilà, écouter les oiseaux. Et puis maintenant, il y a plein de possibilités grâce au smartphone à pouvoir écouter les oiseaux. À l'époque, nous, on le faisait avec des cassettes. On écoutait les oiseaux sur des cassettes. Et je me souviens une fois, j'entends un oiseau. J'ai dit, mais je l'ai entendu celui-là sur une cassette. Eh bien, c'était le pic noir. La première fois que je l'ai entendu, je l'avais reconnu parce que je l'avais entendu d'abord sur une cassette.
Mais vous le faites drôlement bien. À la fois, il faut une bonne oreille et aussi une bonne capacité pour, de sifflement pour reproduire ces sons-là.
Il y a longtemps que j'imite, j'essaye tout du moins d'imiter les oiseaux. C'est un plaisir. J'aime les écouter et puis de temps en temps, je leur cause et ils me répondent.
C'était Saint-François qui parlait aux oiseaux, je crois.
Eh oui, exactement. Oui. Mais bon, moi, je suis Saint-Michel.
Le pic.
Thank you.